Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le moment est venu de retrouver Franck Ferrand pour une nouvelle immersion au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Stéphane Guégan a eu la bonne idée de réunir dans un livre une centaine de toiles célèbres, signées de grands peintres et qui ont beaucoup fait parler d'elles, en leur temps ou encore de nos jours. Alors parmi ces chefs-d'œuvre, quelques grands tableaux d'histoire, dont l'exécution du maréchal Ney par Jérôme. Alors avant de parler de l'œuvre elle-même et de quelques autres, je vous propose d'entrer dans le tableau et de revivre cet épisode incroyable qu'a été la trahison de Ney. Vous allez voir, c'est vraiment un moment étonnant. C'était en 1814.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Audrey sur les origines de la nostalgie.
Oui, avouez que la question est curieuse, complexe, passionnante aussi. Alors je vais essayer de répondre. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec le maréchal Ney. Ça me laisse un petit sursis. Grand soldat Ney, exécuté donc pour trahison.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Voici un personnage étonnant donc, un fils du peuple, révolutionnaire acharné, devenu maréchal d'empire et prince, au service même d'un roi de Louis XVIII. Un fils de tonnelier de Sarre-Louis, d'abord modeste employé aux écritures chez un notaire, hein, et qui, il s'appelle donc Michel Ney, s'engage dans l'armée en 1788, avant, comme beaucoup de Français, de voir sa destinée complètement bouleversée par la Révolution. À cette nuance près que dans son cas, les armées révolutionnaires sont un formidable tremplin vers la réussite. Voilà un homme qui va gravir un à un tous les échelons. Il est lieutenant en 1792, capitaine en 94, il s'illustre pendant la campagne d'Allemagne, se retrouve général de brigade en 96. Il y a vraiment que les périodes révolutionnaires pour permettre des ascensions aussi rapides. Il a carrément pris l'ascenseur, lui. Il faut dire que le général Ney montre des qualités extraordinaires. Une audace au combat, une ténacité inouïe, et puis en même temps cette espèce de simplicité, de familiarité qui évidemment est très bien vue des hommes de troupes. Son surnom va évoluer en conséquence. Au début on l'appelait le Rouquin, et puis il deviendra le brave des braves. Comme beaucoup de Français, il se rallie à Bonaparte au lendemain du coup d'État, vous savez, du 18 Brumaire, et il va rendre un certain nombre de services signalés. Il se distingue à Hohenlinden, il négocie l'acte de médiation avec les Suisses, bien qu'il n'assume pas, disons, de grand commandement, il acquiert une vraie réputation dans le métier des armes. Il fait partie de la fournée des maréchaux en 1804. C'est au moment où Bonaparte devient l'empereur Napoléon, il nomme toutes sortes de maréchaux. Eh bien, parmi les maréchaux, il y a Ney, qui va se distinguer particulièrement pendant la campagne de 1805. Il prend Echlingen en octobre, ce qui va lui valoir d'être titré duc d'Echlingen en 1808. Vous verrez que pour un fils de tonnelier, ça commence à devenir pas triste. Il s'illustre ensuite à Iéna, à Friedland. On a un peu l'impression de faire le tour de la place de l'étoile. Il gagne tout ce qu'il veut, si je puis dire, ce maréchal Ney, puisque maintenant il est maréchal. Pourtant, cette brillante carrière alterne des moments de grâce où tout paraît sourire, et puis d'autres quand même nettement plus saumâtres, des moments où la lassitude donne le sentiment de prendre le dessus. C'est donc le cas en 1808 au moment de la campagne d'Espagne. Campagne d'Espagne qui va beaucoup éprouver Ney. De même, en Russie, après s'être couvert de gloire à la tête du 3e corps de la Grande Armée, eh bien, qu'il réussisse à sauver beaucoup de vies pendant la retraite héroïque, il finit par se lasser, disons. Les campagnes d'Allemagne et de France achèvent de le dégoûter. Entre parenthèses, il est devenu prince de la Moscova du fait de ses exploits en Russie. Et en 1814, comme beaucoup de Français, le maréchal Ney ose se déclarer fatigué de toutes ces guerres de l'Empire. Il redoute le spectre de la guerre civile. Il aspire avant tout à la tranquillité du pays. Vous allez voir que chez lui, c'est une véritable obsession. Et il va jouer un rôle tout à fait décisif dans l'abdication de l'empereur. Il pèse de tout son poids de prince de la Moscova dans la balance. Une balance qui va pencher, vous le savez, en faveur du départ de Napoléon et du retour sur le trône du frère, enfin du retour de la pleinement en tout cas du frère de Louis XVI, le nouveau roi Louis XVIII. Avec Caulaincourt, MacDonald, Marmont, on peut dire que Ney a fait partie du petit cercle qui a poussé Napoléon à l'abdication. Ce qu'il y a de controversé à ce moment-là dans l'attitude de Ney, c'est l'initiative solitaire et un peu prématurée qu'il a prise d'adresser une lettre à Talleyrand avant même son entrevue avec Napoléon, lettre où il prétend avoir déjà obtenu le consentement de l'empereur à l'abdication. Ça lui vaut une scène quand même très gênante et désagréable le lendemain chez le tsar Alexandre, quand les autres négociateurs vont le désavouer publiquement en disant « mais non, mais pas du tout, c'est Ney qui raconte... » Il raconte n'importe quoi. Il n'empêche, la roue tourne, Ney tient bon. Le voilà donc, lui qui est duc et prince d'Empire, le voilà rallié au roi Louis XVIII, comme beaucoup d'autres, hein, évidemment. Tout de même, dans son cas, c'est assez étonnant, puisque les honneurs du nouveau régime vont pleuvoir sur la tête du transfuge. Non seulement il est confirmé dans ses titres de prince de la Moscova, etc., mais il reçoit la croix de Saint-Louis, il est fait pair de France, il se voit confier un grand commandement de région militaire, et encore une fois, c'est le fils de tonnelier révolutionnaire, puis favorable à l'Empire, qui se retrouve ainsi complètement couvert d'honneur par la monarchie restaurée. Et puis voilà qu'en mars 1815, j'ai souvent eu l'occasion de vous raconter ça à ce micro parce que c'est un événement qui évidemment a fait basculer beaucoup de vies et beaucoup de situations. En mars 1815, patatras, l'ogre est de retour. Bonaparte s'échappe, enfin Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe. Il débarque en Provence et le revoici qui remonte vers Paris. Louis XVIII aussitôt fait rappeler Ney à Paris pour lui confier le commandement de l'armée royale chargée d'arrêter l'usurpateur. Pour le maréchal Ney, disons-le, la nouvelle de ce retour est un véritable désastre. Ça ravive en lui toutes sortes de plaies mal cicatrisées. Vous savez, quand vous avez déjà eu un peu du mal à prendre certains partis et que d'un seul coup, il se représente comme ça, face à vous. Alors, Ney choisit de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et alors, il va en rajouter. Hein. Il est fou, déclare-t-il à Louis XVIII en parlant de Napoléon. Il est débarqué avec 300 bandits. J'en fais mon affaire, sire. Ah, ça oui, je vais le ramener comme un fou qu'il est et un fou dangereux. Sire, je me saisirai de lui et je vous l'amènerai dans une cage de fer. Ah, il parle, Ney, il parle. Quand le maréchal est sorti de son bureau, Louis XVIII secoue sa grosse tête. « Dans une cage de fer », reprend-il. Quelle expression ! Emmener un ancien camarade comme une bête fauve dans une cage de fer ? Non, je ne lui en demandais pas tant. C'est un singulier petit serin qu'il compte m'amener là. »
Sur Europe 1, un extrait de Lit, la musique. Et nous revenons à la vie du maréchal Ney avec vous, Franck Ferrand.
Alors, il faut bien avoir à l'esprit hein, le caractère très particulier de cette époque. C'est bizarre quand même, tous ces gens qui ont soutenu Napoléon, qui l'ont lâché pour rejoindre Louis XVIII. Et puis voilà que Napoléon, d'un seul coup, redébarque de son exil. Et alors, quoi faire ? Le maréchal Ney s'est mis en route pour aller rejoindre les troupes royales de l'Est, censées faire barrage à la remontée de l'usurpateur. Le vendredi 10 mars dans l'après-midi, il est à Besançon, qui est le siège de la 6e division militaire, et tout de suite, il fait le point avec le chef des troupes royales sur place, le général de Bourmont, et un autre divisionnaire, le général Lecourbe. Quel est l'esprit des unités, demande-t-il. J'ai confiance dans les officiers, dit le général Bourmont. Pour ce qui est des hommes, c'est autre chose. Mais oui, parce que les officiers sont fidèles au nouveau régime, mais les hommes, ils sont restés au fond d'eux fidèles à Napoléon, évidemment. Le 11, c'est-à-dire le samedi, le débarquement de Bonaparte est considéré comme un événement heureux pour la France. Ce sera le 5e acte de sa tragédie. Voilà où on en est dans l'état d'esprit du petit état-major. En l'occurrence, il commence à se poser de sérieux sérieuses questions naît parce qu'il n'a pas d'instruction du ministre de la guerre, il n'a plus de contact avec les Tuileries. Il faut savoir que le roi Louis XVIII est en train de faire ses malles et qu'il va repartir avec son frère, monsieur, vers les Flandres. Ney se retrouve le 12 mars à la fameuse auberge de la Pomme d'Or en pleine nuit. Elle est restée célèbre, cette auberge, parce que c'est là qu'a lieu le basculement, si je puis dire. Il est toujours très échauffé au moment où il arrive. Voilà un petit éventail de ses déclarations dans la nuit du 12 au 13. J'arrêterai Bonaparte à Lyon et si je ne peux pas l'arrêter à Lyon, je l'inquiéterai sur ses arrières, dit-il. En fait, Napoléon, il est déjà à Lyon, en l'occurrence. Et à Lecourbe, il dit, je te connais, tu aimes ta patrie, tu ne veux pas la laisser tu ne veux pas laisser cet homme rallumer la guerre civile en France. C'est toujours cette idée du maréchal Ney qui veut assurer la paix sociale et qui considère que Napoléon est un véritable danger pour la paix civile. Toutes ces déclarations très tranchées, l'agitation du maréchal, son emballement même, cache, vous l'avez bien compris, un gros malaise au fond. Ney, dans son esprit, pensait ne plus jamais avoir affaire à Napoléon. Il était exilé, on était passé à autre chose. Et puis voilà que l'empereur, revient, qu'il a débarqué et que tout recommence. Est-ce que le maréchal Ney est sûr de pouvoir faire face ? Cette nuit-là, une proclamation de l'empereur est transmise au maréchal. C'est un texte assez inspiré. Disons, vous savez, c'est dans ce fameux texte qu'il est dit que l'aigle volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Et on voit Ney qui lit le texte en question, qui se met à trembler quand même, et qui lit et qui relit. « Ah, ceci est bien fait, dit-il. Le roi a tort de ne pas écrire comme cela. C'est ainsi qu'on parle aux troupes et qu'on les émeut. Le roi a tort, ceci est bien fait. » Le maréchal commence à perdre un peu de son assurance, là, ça vacille, si je puis dire. Or, à chaque heure qui passe dans la journée du lundi 13, les nouvelles s'accumulent et vont toutes dans le même sens. La remontée de l'empereur est triomphale. À Bourg-en-Bresse, la troupe s'est rangée sous la bannière impériale. Le voilà qui marche sur Mâcon. Le peuple a jeté dans un canal l'artillerie royale. Et quand le soleil se couche au soir du 13 mars, le maréchal Ney, disons-le, a totalement perdu sa superbe. Il n'est plus à ce moment-là que doute, angoisse et irrésolution. Son aide de camp, le Vavasseur, ne cesse de lui apporter des nouvelles de plus en plus alarmantes pour les troupes royales. Phénomène extraordinaire que cette remontée de l'empereur après son évasion de l'île d'Elbe et peu à peu le retournement de la population qui accompagne Napoléon. C'est quand même étonnant, le magnétisme étrange de cet homme qui arrive comme ça à retourner tout le monde sur son passage. Alors, pendant ce temps-là, Louis XVIII, je vous l'ai dit, est prêt à repartir et il fait preuve d'un calme que Vitrolles lui-même, grand fidèle parmi les fidèles, qualifiera de désespérant. Dans cette fameuse nuit, Ney reçoit deux visites qui vont jouer un rôle capital. D'abord des émissaires de l'empereur qui se considèrent comme déjà vainqueurs. Vous l'instruirez du délire qu'excite mon retour et de la réunion successive à mon armée de toutes les forces dirigées contre moi, a dit Napoléon. Et puis surtout, les émissaires de l'empereur évoquent l'accord diplomatique avec les grandes puissances d'Europe. En fait, les grandes puissances seraient, on est réunis au congrès de Vienne à l'époque, on a parlé de tout ça, elles seraient d'accord à condition que Napoléon ne sorte plus des limites du pays. Et ça, c'est très important parce que ça cadre exactement avec l'idéal du maréchal, à savoir cette idée d'un pays pacifié, parfaitement rentré dans ses frontières, en paix avec ses voisins, mais qui resterait à l'intérieur, dirigé par Napoléon. Pour Ney, c'est un peu l'idéal auquel il a toujours rêvé, si vous voulez. Je vous ai dit qu'il y avait deux visites. Il y a d'une part les émissaires de l'empereur et puis plus tard encore dans la nuit, la deuxième visite, c'est celle du baron Capel, qui est le préfet de l'Ain, qui est un fidèle du roi Louis XVIII et qui va manifester de façon très criante sous les yeux de Ney la fragilité, l'inquiétude, l'irrésolution, l'essoufflement, mais aussi, disons-le, la banalité, la morgue du nouveau régime. Enfin, nouveau ou ancien, comme on voudra, en tout cas, du régime royal. Capel évoque l'éventualité d'un recours à la Suisse. Alors là, vous imaginez la réaction de Ney, des étrangers étrangers au secours de la France, éructe-t-il. Mais vous n'y pensez pas, monsieur le préfet. Le jour où des étrangers viendront se mêler à la querelle, toute la France sera pour Bonaparte. Et il enchaîne sur les maladresses de la cour royale, sur l'impéritie des ministres, sur l'inertie du roi lui-même. Bon, vous avez compris, nez et mûr pour le grand saut maintenant. À 10h du soir, le maréchal se demandait encore comment convaincre ses hommes de demeurer fidèles à Louis XVIII et à la monarchie restaurée. À 4h du matin, il en est à chercher des mots pour leur expliquer qu'il est grand temps de prendre le parti de Napoléon, d'un empire renégocié. Au cœur de la nuit, le prince de la Moscova vient de retourner sa veste, disons-le, sa belle veste bien dorée pleine de brandebourgs. Il a changé son fusil d'épaule, il franchit le Rubicon, enfin je ne vais pas employer toutes les métaphores possibles. Bref, le maréchal a fait volte-face, reste à faire admettre une telle manœuvre assez subordonné. Le plus simple pour que vous preniez la mesure du changement qui s'est opéré dans cette nuit, dans cette fameuse nuit du 13 au 14 mars 1815, c'est que je vous lise la proclamation officielle de son Excellence le maréchal Ney, prince de la Moscova et donc représentant de sa majesté le roi Louis XVIII. Voilà ce qu'écrit le maréchal Ney. La cause des Bourbons est à jamais perdue. La dynastie légitime que la nation française a adoptée va remonter sur le trône. Et la dynastie, vous avez bien compris de quoi on parle. C'est à l'empereur Napoléon, notre souverain, qu'il appartient seul de régner sur notre beau pays. Oui, l'empereur Napoléon, celui qu'il devait, rappelez-vous, ramener à Paris dans une cage de fer.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la trahison du maréchal Ney.
Il est tellement gêné, le maréchal Ney, d'avoir comme ça fait volte-face pendant cette fameuse nuit de mars 1815, qu'il en est réduit au mensonge. D'abord, il va prétendre que la proclamation qu'il a fait afficher partout lui a été dictée par les émissaires de Napoléon. Or, on aura la preuve historique qu'il n'en est rien du tout. Elle sort de son esprit, la belle proclamation en question. Et puis, par ailleurs, il dit à Bourmont, à son état-major, à ceux qui sont autour de lui, il dit « Mais vous savez ce qui se passe actuellement ?» Parce qu'il faut imaginer leur tête à eux. Ils arrivent comme ça le matin au petit déjeuner, si je puis dire, et ils apprennent que d'un seul coup, on n'est plus pour Louis XVIII, on est pour Napoléon Ier. Vous avouerez que c'est un peu fort. Ce qui se passe actuellement, dit Ney, est le résultat d'un projet arrêté entre plusieurs maréchaux, le ministre de la guerre et votre serviteur, en parlant de lui. Alors, on se regarde, on dit, mais de quoi est-ce qu'il parle? Et Ney, qui est un peu rouge de honte quand même, poursuit, « Il y a 3 mois que nous sommes d'accord. Si vous aviez été à Paris, vous l'auriez vu comme moi. Nous avons tout tenté pour ramener le roi aux promesses qu'il nous avait faites, à une conduite plus conforme aux intérêts de la France. Il n'a rien voulu entendre. » On croit rêver. On est de plus en plus loin de la cage de fer. Mais le maréchal aura beau s'escrimer, il ne convainc pas ses interlocuteurs. Bourmont rappelle cruellement son serment de fidélité au roi. Quant à Lecourbe, il rugit. « Enfin, comment voulez-vous que je serve ce bougre-là » dit-il en parlant de Napoléon. « Il ne m'a fait que du mal et le roi ne m'a fait que du bien. » Ney explose. Dans une longue tirade de théâtre, le voilà qui déverse tous les griefs et toutes les vexations accumulées pendant son service à la cour des Tuileries. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fils de tonnelier continue de nourrir ce qu'on appellerait nous des complexes vis-à-vis de la bonne société, notamment de toute cette haute aristocratie royale d'ancien régime. Et donc il déverse son fiel. Mais déjà, les tambours battent, le protocole militaire reprend le dessus, et bien qu'il désapprouve hautement leur chef, et Bourmont et Lecourbe et tous les autres suivent Ney dans la revue militaire. On passe en revue le 77e et le 60e de ligne, le 5e de dragon, le 8e de chasseur, et tous ces gens-là sont maintenant ralliés à Napoléon. Et le maréchal harangue les troupes, officiers, sous-officiers, soldats, et il relit sa fameuse déclaration « Il faut maintenant suivre Napoléon » et il leur fait tous crier « Vive l'empereur !» Ce qui fait que, de retour à l'auberge, Ney retrouve son aide de camp, les yeux plein de larmes. « Eh bien, le vavasseur, monsieur le maréchal, vous êtes perdu, lui dit-il. Comment ternir en un seul jour une aussi haute réputation et tant de gloire ?» Le sage officier a raison, en vérité. Moi, les jeux sont faits maintenant. Le 17 mars, Ney rejoint à Auxerre l'état-major impérial. Il fait passer à Napoléon une note ainsi rédigée. « Je suis votre prisonnier plutôt que votre partisan si vous continuez à gouverner tyranniquement. » C'est une façon de sauver sa, en quelque sorte, de se mettre en paix avec sa conscience. Le brave Ney est fou. Voilà la réaction de Napoléon, qui ne se trompe pas, mais qui le lendemain, quand même, en l'accueillant, lui dit « Embrassez-moi, mon cher maréchal, je suis bien aise de vous voir et je n'ai besoin ni d'explication, ni de justification. » Il va essayer quand même de se justifier, Ney. Une fois rentré aux Tuileries avec Napoléon, il lui dit « Votre Majesté a peut-être entendu dire qu'en partant pour Besançon, j'avais promis au roi de la ramener dans une cage de fer. » Napoléon lui dit « mais non, de quoi me parlez-vous » « Eh bien si, je dois vous l'avouer, sire, je le confesse, je l'ai dit, » dit-il. Alors bon, Napoléon dit décidément, on peut plus rien tirer de ce bonhomme qui est mis en disposition jusqu'aux événements de juin qui vont culminer, vous savez, à Waterloo, et où Ney va faire la preuve d'un dernier sursaut d'héroïsme désespéré qui est peut-être d'une certaine manière une forme de suicide aussi, disons-le. En tout cas, le prince de la Moscova, vous l'avez compris, a choisi le mauvais camp. Napoléon, le 18 juin 1815, est de nouveau vaincu, alors là, cette fois définitivement. Louis XVIII va remonter sur le trône. Et Ney, malgré son héroïsme, a survécu au combat. Il a dû subir les humiliations de la fuite, de la traque, de l'arrestation, et puis du procès, avec tous ces témoins qui viennent l'accabler, toutes les mises au point. Vous imaginez que de malaise, que de souffrance, pour un homme qui plaçait les questions d'honneur au-dessus de tout. Le 7 décembre 1815, le maréchal Ney va donc être condamné à mort. Il est condamné, c'est la Chambre des Pairs qui le juge, il est condamné à 157 voix sur 161. Autant dire qu'il est condamné à mort à l'unanimité. Vous imaginez le désaveu incroyable que ça représente pour un homme comme celui-là. Il s'adresse aux soldats dont les jambes flageolent. Ils vont fusiller un maréchal de France. Vous imaginez l'histoire un peu invraisemblable. Et alors il dit « Camarade, dit-il aux soldats du peloton, tirez sur moi et visez juste. » Et il ajoute « Français, je proteste devant Dieu et la patrie contre le jugement qui me condamne. J'en appelle aux hommes, à la postérité, à Dieu. Vive la France !» Une salve. Michel Ney s'écroule. De quoi est-il victime? Peut-être tout simplement des contradictions de l'époque. Tout de même, il faut savoir qu'un mystère est né de cet événement, puisque bien plus tard, en 1846, mourra en Caroline du Nord, aux États-Unis, à Brownsville, un homme qui s'appelait Peter Stuart Ney et qui affirmait être le maréchal Ney. On aurait substitué en fait au maréchal un personnage, etc. Et « By all that is holy, I'm Marshal Ney of France », dit-il sur son lit de mort, « par tout ce qui est sacré, je jure être le maréchal Ney de France ». Et alors un certain nombre d'historiens vont lui emboîter le pas et certains finiront par accréditer cette thèse selon laquelle on aurait effectivement fusillé quelqu'un d'autre à la place du maréchal. Ce ne serait pas lui qui serait mort. Ce n'est évidemment pas l'opinion dominante, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour le moment, nous avons laissé le maréchal Ney, le nez dans la poussière ou dans la boue. C'est ce que peint Jean-Léon Gérôme dans ce tableau intitulé « 7 décembre 1815 ». 15, 9h du matin, l'exécution du maréchal Ney. Bonjour Stéphane Guégan.
Bonjour.
Ce tableau, grâce à vous, je l'ai sous les yeux. Là, vous racontez l'histoire de ces toiles qui ont fait débat. Alors, celui-ci, c'est un tableau d'histoire. Nous allons parler d'un certain nombre de tableaux historiques, mais pas seulement, parce que après avoir parlé de l'histoire dans les tableaux, ce qui va nous intéresser maintenant, ce sont les tableaux dans l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire des tableaux qui font débat cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Stéphane Guégan, historien et critique d'art, conservateur au musée d'Orsay, auteur du 100 tableaux qui font débat aux éditions Azan.
Alors Stéphane Guégan, nous allons revenir d'abord sur l'histoire de ce tableau-ci avant de passer à tous les autres. Pas tous, parce qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, dans le temps qui nous est imparti de parler des 100 toiles, mais ça pourrait faire l'objet d'autres émissions, pourquoi pas. Je le décris en deux mots, cette toile de Gérôme, qui date donc de 1868. On est dans la grisaille de l'aube. On aperçoit derrière le mur où a eu lieu la fusillade, on aperçoit le dôme de l'observatoire, puisque c'est là qu'a eu lieu la scène. Il y a au sol beaucoup de boue. Le peloton d'exécution, arme à l'épaule, est en train de s'éloigner déjà. Celui qui l'a commandé jette un dernier regard par-dessus son épaule vers la masse au premier plan, masse sombre, complètement allongée, affalée. aller le nez dans la boue. Et ça, évidemment, ça fait un véritable scandale. Raoul de Navry, dans son rapport du Salon de 1868, dit que Jérôme, il va jusque-là, a commis une mauvaise action. S'il prend, dit-il, à un artiste la lugubre fantaisie de reproduire un fait tel que l'exécution du maréchal Ney, il doit au moins se souvenir des services rendus par cet homme pour lui accorder cette grâce dernière de le montrer mourant en brave. Ce qu'il pouvait y avoir de grand est escamoté. Ney a le nez dans la boue.
Oui, c'est un mauvais jeu de mots peut-être, mais il dit beaucoup. Il dit beaucoup de la réception du tableau en 1868. Il faut se souvenir que ce salon, c'est le salon du balcon de Manet, du portrait de Zola. On est dans un autre monde de la peinture. Et cette peinture d'histoire, celle de Jérôme, cherche aussi à renouveler ses codes.
On pense un peu aux 13 des maillots de Goya. Hein,
c'est l'explosion en moins.
Ouais, alors voilà.
Et c'est la vraie différence. C'est que, comme Manet, Jérôme a bien sûr ce tableau en tête, mais il ne montre pas l'action, il ne montre pas le feu, il montre l'image d'après, comme disent les cinéastes aujourd'hui.
Ouais.
Quand c'est fini. Et c'est ce qu'on lui reproche. Au lieu d'avoir montré le brave des braves, le prince de la Moscova, ouvrant les bras et essuyant le feu, il le montre déjà mort, ou presque tiède. Le nez dans la boue, comme un mortel au fond, comme un homme du commun.
Quelle est l'intention du peintre dans cette affaire? Parce que ça a l'air d'être assez opposé à son positionnement politique.
Oui, parce que lui vient au fond de la tradition libérale qui
voilà,
s'est adapté à tous les régimes depuis 1848. Il a peint une république en 1848. Et sous le Second Empire, il est plutôt proche du régime. Et donc il dénonce au fond ici la terreur blanche de la Restauration. Mais il la dénonce à sa manière.
C'est très bizarre parce que c'est l'effet produit après coup, notamment avec un siècle et demi de retard, est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que le tableau a l'air d'être une accusation de Ney. Alors qu'en fait, vous nous dites, c'est une accusation de la violence de cette terreur blanche.
Très exactement, puisqu'on a non seulement des notes de lecture, on sait que Jérôme, qui est un artiste qui se documente, a beaucoup lu. Précisément, son tableau essaie de détailler les conditions de cette exécution sans la montrer elle-même. Non, il a l'intention de dénoncer la violence politique de la Restauration. D'ailleurs, sous le Second Empire, vous l'imaginez bien, on revient sur cette époque funeste aux yeux des contemporains, celle qui a vu la fin du Premier Empire.
Donc pour son époque, le tableau est politiquement correct, il faut le dire.
Il est politiquement correct, il est impolitiquement esthétique.
Voilà,
il est esthétiquement
il est esthétiquement incorrect.
Voilà. Il est esthétiquement incorrect. Jusqu'au point de faire réagir, justement, j'ai envie de dire, les critiques d'art, mais aussi les contemporains, qui sont heurtés par la manière dont ils montrent la mort du brave des braves. Non, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faudrait, au fond, plutôt penser au Marat de David quand on regarde ce tableau. C'est-à-dire qu'il nous montre un homme le nez dans la poussière ou le nez dans la boue, mais cet homme est tout de même héroïsé par les formes mêmes. Cette façon de souligner la diagonale que constitue le corps et ce vêtement noir, cette façon d'en faire un Christ laïque.
Il y a quelque chose de très de photographique dans le projet de Jérôme là, c'est-à-dire que on a une scène qui n'obéit pas aux canons habituels de la peinture d'histoire, c'est
oui,
le moins qu'on puisse dire. Hein.
Le tableau est photographique dans la mesure où Jérôme nous invite à presque participer à l'événement en temps réel, comme on dirait aujourd'hui, mais tout de même, si l'on regarde bien l'œuvre elle-même, à la fois les diagonales qui s'entrecroisent, vous l'avez rappelé, l'officier qui se retourne, le chapeau qui est isolé, qui fixe un peu comme ça un instant de l'histoire.
Mais le chapeau a volé à côté du condamné,
à côté
en fait.
À mort, voilà. Et sous au fond cette neutralité apparente, il y a une forme d'héroïsation. Et je crois que il a voulu faire de ce maréchal de France tout de même un homme qui a affronté la mort, et il l'a héroïsé non pas par le courage qu'il a montré pendant l'exécution, mais par, au fond, le corps même et cette présence dans le tableau.
Vendredi dernier, je citais Théophile Gautier pour l'amour qu'il avait porté à notre Emma Livry, cette danseuse qui avait brûlé vive sur la scène de l'opéra. Voilà ce qu'écrit Théophile Gautier à l'époque. C'est un tableau d'histoire, mais non pas dans le sens où l'on entendait ce mot autrefois. D'abord, le cadre en est tout petit, comme celui d'une scène de genre, et le sujet n'a pas encore le recul du passé. Il palpite et saigne toujours, pour ainsi dire. Lui a bien compris l'intention du peintre.
Oui, il compare même le tableau aux Nouvelles de Mérimée. Effectivement, le tableau nous laisse dans une sorte d'hésitation. Est-ce qu'il s'agit d'un simple officier de ligne, ou est-ce qu'il s'agit du maréchal de France? Est-ce qu'il s'agit d'un homme qu'on a exécuté au petit matin en catimini, ou est-ce qu'il s'agit au fond d'un traître? Nous savons tout de même de quoi il en retourne, et le public de 1968 le savait. Mais Jérôme préfère, au fond, j'ai envie de dire, de manière presque imaginaire, illusoire, nous situer au moment même de l'événement. Et cet événement palpite et saigne, comme dit Gautier.
Et on voit bien qu'il y a donc les deux points de vue. Celui des personnes fidèles à la mémoire de Ney, etc., qui ont été choquées par le caractère très prosaïque du traitement que Jérôme a imposé à sa scène. Et puis, au contraire, tous ceux qui ont compris son intention et qui montrent ce qu'il y a de moderne. Ce tableau fait donc débat. Ça, c'est intéressant parce que votre livre n'est pas sur les 100 tableaux qui font scandale. Il est bien sur 100 tableaux qui font débat, c'est-à-dire avec à chaque fois des pour et des contre. Ça m'a beaucoup intéressé, hein. Ce balancement, en quelque sorte.
C'est exactement le principe du livre. C'est retrouver sous le fracas des plus grands scandales de la peinture européenne depuis la Renaissance les raisons mêmes du débat, les raisons de la polémique. Il n'y a pas d'incompréhension totale en histoire. Chacun de ces tableaux a suscité le pour et le contre. Et il y a quelques défenseurs, même pour les tableaux les plus vilipendés, qu'il s'agisse de Manet ou de Picasso. Je crois que c'est une erreur, et c'est une erreur des historiens de l'art, que de conforter l'idée que certains tableaux ont affronté, si j'ose dire, une sorte de mur d'indifférence ou de mur d'incompréhension. Il y a toujours des brèches, il y a toujours des voix discordantes.
Il y a toujours les pour et les contre dans cette affaire.
Comme aujourd'hui.
Et vous les faites parler, ça c'est remarquable. Et d'ailleurs, vous nous montrez que même avec notre recul, nous avons parfois des sujets d'interrogation sur certaines toiles. Ça, c'est quand même intéressant. Vous parliez de Manet à l'instant. On a l'image, évidemment, de ce tableau archi-célèbre, puisque vous venez du musée d'Orsay. L'un des clous, on va dire, du musée d'Orsay, ce déjeuner sur l'herbe, qui montre une femme nue au milieu, dans un pique-nique, au milieu d'hommes habillés. On présente toujours ça comme le scandale des scandales. Vous nous dites que c'est plus subtil que ça, en vérité.
Oui, dans la mesure où, à ce tableau, a été épinglé pour l'éternité l'idée, enfin précisément le lieu où il a été montré pour la première fois, le fameux salon des refusés. Je dirais par voie de conséquence, on y voit le tableau qui symbolise même tous ces maudits du 19e siècle. D'abord, c'est un salon des refusés qui a été imposé par Napoléon III à son administration. Napoléon III entend les doléances.
Ça déjà, c'est un premier bémol. Hein,
un premier bémol. Il entend les doléances des artistes qui ont été repoussés par le jury officiel et il leur ouvre un salon alternatif où précisément Manet se taille la part du lion. On peut dire que c'est à travers cet événement que sa carrière s'élance. Et en grattant bien, précisément en allant voir où les historiens d'art ont perdu l'habitude d'aller chercher, on trouve des critiques pour dire vous méprenez. Ce tableau n'est pas simplement trop réaliste ou un peu aberrant. Vous l'avez rappelé, la scène n'est pas banale. Il y a quand même des critiques pour dire il y a chez cet artiste une volonté de combiner la noblesse et le trivial, de renouveler la peinture d'histoire par la scène de genre,
et donc d'accroître les contrastes,
d'accroître les contrastes,
puisque jusqu'ici on peignait des nus qui étaient assumés comme tels, qui donc avaient toute la noblesse de l'académisme et d'une très très vieille tradition, très antique. Et là, d'un seul coup, le nu est présenté dans son prosaïsme, puisque la nudité se trouve entourée de personnes qui elles sont habillées. Donc ça crée un
exactement un contraste fort qui est souligné par les contrastes de forme et de lumière. Ce qui m'a intéressé, c'est de rappeler à mes lecteurs que ce tableau repose sur des citations des grands maîtres, Raphaël, Titien, et que ces citations ne sont pas indifférentes, elles ne sont pas gratuites, elles ne sont pas de pure provocation. Il s'agit, au fond, c'est ce que j'essaie de soutenir, de renouveler même l'idée de la Vénus anadiomène. Ce tableau s'appelle Le Bain, en 1963, et on y voit une jeune femme en déshabillé, dans un cours d'eau, hein, et qui incarne une nouvelle forme de beauté.
ce n'est plus un pavé dans la mare, c'est un véritable sujet de débat. Il y a énormément d'autres grands tableaux, on ne pourra pas tous les citer. J'en ai relevé comme ça, si vous permettez, un certain nombre, parce qu'ils sont très connus ou parce que le débat qu'ils posent nous interroge encore aujourd'hui. Nous y venons dans un instant, en votre compagnie, Stéphane Guégan.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, un extrait de tableau d'une exposition La Grande Porte de Kiev, dirigée par Hervé von Karajan.
Ça s'imposait,
tout à fait.
Les tableaux d'une exposition sous la baguette magistrale de Karajan. Alors, vous nous parliez tout à l'heure, Stéphane Guégan, de ce tableau de David. Vous disiez qu'en peinture d'histoire et par comparaison, on pourrait parler de la mort de Marat. Le titre exact, Marat à son dernier soupir, donc en 1793, au moment du drame de cet assassinat de l'ami du peuple par Charlotte Corday. Eh bien, il fait l'objet d'un chapitre du livre, bien entendu. Vous l'avez intitulé « Le sourire de la mort ».
Oui, il me semble que Jérôme avait en tête.
Il y a un côté titre de Libé, hein, d'ailleurs, dans vos titres de chapitre. Vous êtes amusé avec les titres, j'ai vu.
J'ai essayé d'amuser mon lecteur, surtout. J'ai essayé de ramasser en une formule. C'est sans doute l'art du journaliste. Je ne sais pas si je le possède. L'idée mère de chaque chapitre. Le sourire de la mort, c'est le sourire de Marat dans sa baignoire, expirant. Il vient d'être poignardé par Charlotte Corday. Ce qui est très frappant avec David, qui est conventionnel, régicide.
Conventionnel, c'est-à-dire, il est à l'Assemblée, en l'occurrence.
Oui, et il est de tous les comités.
C'est un révolutionnaire pur sucre.
Voilà, c'est un homme qui a liquidé l'Académie royale, c'est un homme qui a tous les pouvoirs, qui est redouté, et qui reste aussi un peintre radical. Je dirais même que sa peinture n'a jamais été aussi radicale que sous la Révolution, pour des raisons évidentes. Elle a le tranchant même de l'époque. Et le Marat est resté, aujourd'hui exilé à Bruxelles, mais le Marat est resté l'image la plus forte au fond de cette époque, qui est le moment de la terreur.
Avec ce fond noir, on imagine la figure du, je sais pas comment on pourrait dire, du gisant au premier plan.
Christ laïque.
Il y a quelque chose de christique.
De christique.
Dans une lumière très crue, dans cette baignoire sabot. Donc,
oui.
Et c'est vrai on peut comparer la posture, le sourire, le rictus, l'attitude de Marat avec ce qu'on peut voir sur les descentes de croix. Hein, c'est vraiment
ça. Bien sûr. Donc c'est un tableau qui montre non pas un homme qui vient d'être poignardé, mais un homme canonisé. Un homme qui est déjà dans l'éternité.
Un martyr qui s'est sacrifié, en fait.
Sacrifié, voilà.
Quand on connaît la réalité, c'est pour le coup, ça fait sourire.
Un peu sourire. Le tableau est plus tranchant que souriant. Même si, parce que David a tout ça en tête, il connaît cette tradition des saints et des saintes baroques qui expirent en souriant parce que déjà on leur montre les palmes de l'éternité, eh bien Marat est destiné à vivre dans la mémoire des Français. Et d'une certaine manière, David fonde une sorte d'héroïsme populaire que le 19e siècle va développer à un degré que vous imaginez.
Alors, pour classer les tableaux, évidemment, vous les avez réunis par type de débat. Ceux dans lesquels on considère qu'il y a trop de peinture. Ceux que vous appelez les apostats. C'est passionnant, ça, d'ailleurs.
Merci. Alors, oui, ce sont les artistes qui ont été modernes, et puis un jour, qui ont décidé d'être anti-modernes, qui sont sortis de l'histoire, qui ont refusé...
Qui ont renié
leur école. Ou en tout cas, qui ont décidé de ne plus s'enfermer dans leur premier style, ce qu'on ne pardonne pas, vous le savez, aux artistes, et ça vaut pour des Quirico, ça vaut pour Martial Reiss, ça vaut pour Derain, ça vaut pour Picasso.
Oui, bien sûr. Alors ceux dont vous considérez, dont on a considéré qu'ils étaient trop réalistes, trop de réel, trop de chair, etc. Alors vous classez les demoiselles d'Avignon de Picasso dans la catégorie l'enfance de l'art.
Oui, parce que le primitivisme dont relève son goût pour les masques nègres, son goût pour Gauguin, son goût pour les arts d'avant Raphaël, comme on le disait à l'époque, s'exprime pour la première fois à plein dans Les Demoiselles d'Avignon de 1907-1908, et qu'il faut l'inscrire aussi dans cette tradition. On en a fait le seuil de l'art moderne et les
et
millions
pour cause, hein, c'est et pour même, cause c'est très frappant oui. Hein, la toile on s'y fera jamais si je puis dire. Non, mais c'est très étonnant.
Oui, et en 1916, imaginez que c'est pendant la Première Guerre mondiale que ce tableau affronte pour la première fois son public. Un public d'ailleurs trié sur le volet, c'est dans les salons de Paul Poiret. C'est-à-dire le nec plus ultra de la mode française.
C'est d'élégant à Paris, oui.
Voilà, qui était aussi un grand collectionneur et qui cherchait sans doute...
Grand couturier, grand amateur d'art.
Grand collectionneur et qui va montrer ce tableau. Et Picasso, d'ailleurs, ameute tout ce qui est, tout ce qu'il y a comme collectionneur, Gertrude Stein, bref, toutes les personnes qu'il peut inviter à cette consécration. Et d'ailleurs, la presse est très surprise. Nous sommes encore devant ce tableau quand nous sommes à New York. La presse parle de groin de truie, de femmes peintures lurées.
Oui, on connaît hein, donc ces cinq modèles, donc qui posent d'une manière assez classique, comme, un peu comme les Grâces hein, finalement.
Sûr,
on n'est pas très loin de Canova dans la
bien
pose.
Sûr.
Sauf que avec elles ont des masques africains, elles ont des visages déformés. Enfin, tout est angulaire, cubiste déjà évidemment.
Hein, c'est la naissance du cubisme pour l'histoire de l'art, mais pour nous autres qui cherchons au fond à regarder autrement les tableaux. C'est aussi un tableau où, vous venez de le rappeler, Picasso joue avec son propre fond classique et surtout traite une scène de bordel. Le tableau est baptisé Les Demoiselles d'Avignon, titre d'ailleurs déjà un peu parodique. Mais tout le monde le sait, tout le monde l'a dit autour de Picasso, c'est le bordel d'Avignon que ce tableau représente. Et non pas d'ailleurs notre bonne ville du sud de la France, mais les quartiers chauds de Barcelone.
Oui, voilà, c'est ça en vérité,
voilà.
Bien sûr.
Et ce tableau nous montre donc à la fois la tentation qu'inspirent ces créatures, mais aussi la répulsion. Et les masques africains ne sont peut-être pas simplement une manière...
C'est un peu le portrait de Dorian Gray, d'une certaine manière.
Et peut-être aussi, certains de mes collègues américains ont poussé l'analyse jusque-là, des femmes dégradées par les maladies, par la syphilis qui a tant passionné Picasso pendant sa période bleue. Donc c'est un tableau beaucoup plus complexe que l'histoire de l'art canonique ne veut le dire.
Alors nous avançons justement dans l'art contemporain qui fait scandale, là, même si le débat existe. Par essence, c'est sa nature même. J'ai retrouvé avec plaisir un tout petit tableau que j'avais moi-même installé dans un de mes récents ouvrages avec Stéphane Bern, qui est le portrait de la reine Elisabeth II par Lucian Freud.
Ouais.
Ça c'est assez stupéfiant.
Ouais.
Hein, comme.
Oui, vous avez bien fait de vous y intéresser parce que c'est un tableau qui montre comment. La reine d'Angleterre, déjà âgée au moment du jubilé en 2001, décide de se montrer en protectrice de l'art britannique le plus moderne, le plus décrié encore par l'establishment, et rappeler ce qu'est aussi au fond son rôle de souveraine, c'est-à-dire une femme pour laquelle la fonction l'emporte sur la personne. Et qui accepte son vieillissement, qui accepte, au fond, de se montrer de manière un petit peu ridicule, avec ses cheveux gris permanentés, cette immense couronne, ce visage chafouin, ses yeux comme ça divergents. Il y a quelque chose de formidable. C'est pas une immense toile comme un portrait d'apparat,
petite, hein,
mais
ça, oui.
Il y a une force. C'est une sorte de boulet de canon, comme Lucian Freud peut le faire quand la forme chez lui se concentre.
C'est une contribution, dit le directeur de la National Portrait Gallery, donc là on est dans l'establishment britannique, dans ce qu'il peut avoir parfois de presque comique, une contribution profondément psychologique et évocatrice à l'iconographie royale. À quoi un photographe People de Sun répond, il devrait l'accrocher aux chiottes, Freud mériterait d'être enfermé dans la Tour de Londres. Ça fait débat.
En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'équivalents, vous me direz, il n'y a pas beaucoup de monarchies aussi vivantes que la couronne d'Angleterre parmi les grands saumons.
Oui, non, il n'y en a même plus vraiment.
Même plus, l'humour manque singulièrement aux grands de ce monde. La reine d'Angleterre a prouvé le contraire.
Oui, elle ne s'est jamais prononcée sur le tableau lui-même, on sait ça. Puisque...
Mais elle ne l'a jamais nié.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc c'est...
Mais le principe des souverains, c'est qu'ils ne donnent jamais leur point de vue sur l'art, hein, pour des raisons de politesse.
Là, l'occasion lui était donnée, en tout cas, de renier la toile. Et vous savez que Lucian Freud est mort... Non pas pair de France, mais après avoir été anobli.
Oui. Alors, évidemment, c'est presque trop facile pour vous, puisque l'art contemporain vous offre un nombre infini de débats. J'ai choisi, mais alors tout à fait, j'allais dire par hasard, la fameuse anthropométrie de l'époque bleue de Klein, hein, cette espèce de décalcomanie corporelle, en quelque sorte. Mais là, on est dans le happening, qui par définition fait débat, mais dont le but même est de faire débat. Est-ce que ça a toujours, et c'est ça la grande question, Stéphane Guégan, est-ce que le but de tous ces peintres a toujours été de faire débat? Ou est-ce que c'est seulement un attribut de l'époque contemporaine?
Je crois que dès lors que, à partir de la fin du XVIIIe siècle, la peinture entre de plein pied dans l'espace public, elle a besoin de faire parler d'elle, de faire débat, d'attirer l'attention. Et vous le savez comme moi, Yves Klein était le roi même de la polémique. Il organisait lui-même ses performances avec des musiciens, on y prenait un verre. Ses femmes étaient superbes, elles venaient se rouler dans la peinture bleue devant des spectateurs ébahis, avant de poser leur corps, vous parliez de décalcomanie, avant de laisser une trace, donc sur la toile blanche. Ce qui est très intéressant, si l'on oublie, ou plutôt si l'on va regarder au-delà de l'acte de la provocation pure, Klein s'est imposé dans le monochrome quelques années plus tôt, dans la peinture la plus abstraite, au point que même le monde de la peinture abstraite le rejette. Et voilà qu'il revient à la figuration, d'une manière paradoxale, d'une manière biaise, mais il revient à la figuration. On n'a pas voulu l'entendre, me semble-t-il, ce geste. C'est ce que j'ai essayé, moi, de rappeler, c'est que cette peinture est figurative d'une manière neuve, que la trace remplace le tracé, et j'y verrais même une sorte de voile de Véronique, la Vera Iconica. Ces femmes viennent,
L'empreinte.
Laisser leur empreinte sur la toile blanche. Il y a quelque chose de christique, car il y avait beaucoup de religieux et de religions chez Yves Klein.
100 tableaux qui font débat, c'est donc un très beau livre de Stéphane Guégan chez Hazan, s'il vous plaît. Et alors, ça fait partie de ces très rares beaux livres que l'on ne se contente pas de feuilleter. C'est-à-dire que dès que vous l'ouvrez, vous commencez à lire et vous êtes pris par le texte. Ça, c'est suffisamment rare pour être souligné. Merci beaucoup Stéphane Guégan.
Je suis flatté, merci.
Puisque nous sommes dans l'art, je voudrais signaler que c'est ce soir que va être lancée la campagne pour l'année, là, la campagne 2014 du plus grand musée de France. Vous savez, les trésors de nos communes pour aider toutes ces communes à sauver ce patrimoine de proximité qui nous est tellement cher. C'est une magnifique entreprise, ça, qui a été lancée par Olivier Drouhan-Chabot avec la société, avec la sauvegarde de l'art français et avec la junior entreprise de l'école du Louvre. Alors évidemment, tous nos vœux accompagnent le plus grand musée de France et nous aurons l'occasion à ce micro de vous tenir au courant d'un certain nombre de leurs initiatives.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question d'Audrey sur les origines de la nostalgie.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Audrey. Elle nous l'a envoyée par mail sur le site d'Europe 1. Elle souhaiterait savoir si nos ancêtres exprimaient également une certaine nostalgie du passé. Est-ce que c'était aussi mieux avant ?
En fait, je pense que à toute époque, il y a eu ce sentiment. On en a la trace notamment dans la littérature antique. Un certain nombre de grands auteurs, et je n'ai pas besoin de vous renvoyer notamment à Sénèque, ont donné à ce sentiment ces lettres de noblesse. Il y a une expression en grec ancien, os per kai protou, qui veut dire « comme au bon vieux temps ». Et on trouve cette expression à tout bout de champ, si je puis dire, dans la littérature antique. Donc c'est un sentiment qui est aussi vieux que le monde. À partir du moment où on a vécu des choses, eh bien, on en a la nostalgie. Alors, d'où vient le terme de nostalgie? Ça, c'est plus précis, évidemment. Ça, c'est un terme du XVIIe siècle. C'est le médecin alsacien Johannes Hofer qui a créé ce concept de nostalgie dérivé du grec nostos, donc le chemin, le retour, et algos, la douleur. C'est la douleur de l'éloignement, en quelque sorte. Et ce concept, il a été créé alors qu'on est étudiait la situation des mercenaires suisses. Vous savez que le roi Louis XIV avait cette troupe de garde suisse, hein, qui avait été créée quelques règnes avant le sien. Et ces gardes suisses, ils étaient, dit-on, obsédés par leur terre natale. Ils avaient des crises d'angoisse, des crises de larmes, etc. Au sentiment, à penser à leurs origines. Une sorte de ce que plus tard, au XIXe siècle, on appellera le spleen. Et le grand auteur, le grand poète de la mélancolie, ce sera Baudelaire, hein, évidemment. évidemment. Mais il y en aurait d'autres, il y a Nerval, enfin bon. Mais en tout cas, c'est bien, ce sont bien ces Suisses, hein, ces mercenaires suisses qui ont donné leur nom à ce terme nostalgie, une théorie qui dès l'époque est contestée, notamment par un médecin suisse, Johann Jakob Schweitzer, qui dit que lui, les symptômes en question sont liés simplement à la différence de pression atmosphérique entre les régions originaires dont ces soldats sont originaires et puis celles où ils sont amenés à combattre ou à exercer leur office. En vérité, bien entendu, et ça c'est assez amusant d'ailleurs de le constater, c'est au premier hein, que notre époque a fini par donner raison. Alors, cette nostalgie, elle est très ancienne. Le terme entre au dictionnaire de l'Académie en 1835 avec cette définition, maladie causée par un désir violent de retourner dans sa patrie. Il y a donc une dimension géographique à la nostalgie. Aujourd'hui, il y a plutôt une dimension temporelle dans la conception que nous en avons. Vous voyez que tout évolue finalement. Rien n'est plus comme avant.